Podcast. La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Thiberguien.
Jamais notre enseignement scolaire n'aura été soumis à autant de pression que ces dernières années. Que faut-il faire pour améliorer la situation ? Situation par rapport à quoi ? Eh bien par rapport à PISA par exemple, où nous ne sommes pas toujours très très bien classés, en tout cas en dessous de la moyenne nationale. Internationale. Encore faudrait-il essayer de définir sur quoi repose cette moyenne ? Nous sommes déjà allés voir ailleurs comment ça se passait en essayant d'intégrer tout cela à notre système d'enseignement et pourtant les choses ne vont pas encore aussi bien. Malgré tout, nos profs sont des gens passionnés par leur métier. Ils en veulent et ils veulent croire que nos enfants auront un avenir et qu'ils pourront s'y épanouir. Pas uniquement d'ailleurs un avenir professionnel. John Rizzo est avec nous. Il vient de publier aux éditions Care Éditions « Sauver l'école » avec un grand point d'interrogation. Bonjour John Rizzo.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Bienvenue dans cette émission. Alors vous êtes un passionné d'enseignement. Vous avez fait ça toute votre vie, même si vous n'avez pas toujours été à l'école pour enseigner. Vous venez plutôt d'un milieu privé, vous avez travaillé dans le langage informatique, le programmateur, vous étiez programmateur, vous avez fait une start-up, vous l'avez bien réussi, vous l'avez bien vendu, et puis ensuite il a fallu envisager l'avenir. Mais tout au long de votre parcours professionnel, vous avez toujours gardé un pied dans cet enseignement, cette envie de pouvoir transmettre aux autres votre savoir-faire, vous le cultivez depuis un certain nombre d'années déjà, et puis finalement vous y êtes venu à ce métier d'instituteur, parce que vous vous êtes dit au fur et à mesure de votre parcours, que c'est là qu'il fallait agir pour pouvoir avoir des enfants motivés, des adultes créatifs et motivés et surtout épanouis dans leur vie. Votre livre a ceci d'original, c'est que vous ne conseillez pas une méthode en particulier. Vous partez de votre propre expérience, qui est souvent très drôle d'ailleurs, lorsque vous avez été confronté pour la première fois à une classe d'abord d'adultes et puis une classe d'élèves. Et à travers cette expérience, les choses que vous avez essayé de mettre en place et qui ont plutôt bien réussi, et celles qui n'ont pas réussi. C'est donc votre expérience que vous partagez, mais qu'est-ce qui vous a mis en colère par rapport à l'école ? Qu'est-ce qui vous met d'ailleurs encore en colère par rapport à l'école aujourd'hui ?
Alors d'abord, vous avez très bien résumé le livre. C'est bon, je peux presque partir. Alors, ce qui m'a mis en colère ? Mais je vois beaucoup de gens souffrir, en fait, et ça me met en colère. En fait, c'est pour ça, au début, quand j'ai démarré cette démarche vers l'enseignement, je pense en avoir pour quelques semaines de lecture, et puis ça a pris des mois. Et puis finalement, j'étais pris par le système, et j'ai fini dans les classes comme instituteur. J'ai formé des demandeurs d'emploi. En fait, je voulais comprendre pourquoi ils arrivaient comme ça sur le marché de l'emploi. Et j'ai vu, dans mon parcours, beaucoup de gens souffrir, tant les enseignants que les élèves. Et alors que ce n'est pas obligé, je veux dire, on pourrait s'organiser autrement pour qu'ils ne souffrent pas. Prenons un exemple. Par exemple, quand vous mettez des élèves dans une classe en première secondaire, je crois que beaucoup d'enseignants qui nous écoutent vont se reconnaître, alors que certains ne connaissent pas leur table de multiplication et que d'autres, ils vous lisent par exemple un livre de 100 pages chaque semaine. Pour moi, ce n'est pas grave, c'est une classe hétérogène. Ce qui est grave, c'est qu'on oblige alors l'enseignant à leur faire réussir le même examen à tous à la fin de l'année. Et ça, je trouve, à la place des enseignants, je ne serais pas content.
Ce que vous reprochez un peu à l'école et qui apparaît en filigrane tout au long de votre ouvrage, je trouve, c'est le manque de motivation. Alors, ce n'est pas le manque de motivation des profs ou des élèves, c'est l'imagination qu'on a de cette motivation que l'on pourrait faire naître chez les élèves à travers les outils qu'on a en tant que prof.
Exactement. C'est-à-dire que je pense qu'il faut moins donner de matière et dépenser toute notre énergie à inciter les élèves à prendre la matière. C'est Michel Serres qui disait « Cessez de transmettre, tout a été transmis ». Et donc, autant je suis assez exigeant en termes de quantité de travail, on le voit dans le livre, à un moment donné, je dis, voilà, vous ne passez pas à autre chose tant que vous n'avez pas 80%, par exemple, dans l'anecdote des nombres divisibles en classe de quatrième primaire, autant je pense que l'enseignement, c'est aussi un feu qu'il faut allumer au niveau des élèves. Quand j'ai une classe à qui je dis, vous avez eu de mauvais résultats, après qu'on ait expliqué les nombres divisibles, après qu'ils aient corrigé des exercices, après qu'on ait fait des devoirs, après qu'une interro que j'ai annoncée, et que les résultats sont mauvais, alors qu'il y a une interro de rattrapage qui n'était pas beaucoup mieux, je me dis, mais en fait, vous ne savez pas étudier, vous pensez que vous avez fini quand votre photocopie est terminée. Mais non, vous avez fini quand vous avez appris. Et donc, à partir de là, se dire que le train du programme avance et qu'on passe vite à autre chose, même s'ils ont 40%, ben je trouve que c'est générateur à terme de beaucoup de problèmes qui me mettent en colère. En effet.
C'est dans vos gènes, hein, ça, le fait de vouloir comprendre, parce que vous êtes allé parfois jusqu'au bout des choses, quand vous ne compreniez pas quelque chose, et vous parliez des photocopies notamment, c'est quand même assez drôle, vous êtes carrément allé voir une équipe éditoriale de manuels scolaires pour essayer de comprendre pourquoi ces manuels scolaires étaient si peu utilisés, ou pourquoi il y en avait autant que les élèves devaient se farcir et voir un petit peu comment ça marchait. Vous, quand vous ne comprenez pas, vous essayez de comprendre, et tant que vous n'avez pas de réponse, vous tenez l'os jusqu'au bout. On va voir dans quelques instants, hein, avec vous John Rizzo, et cet ouvrage « Sauver l'école, point d'interrogation » chez Cœur Édition, que vous n'êtes pas non plus prétentieux lorsque vous faites vos propositions. Vous dites que finalement, et c'est ça qui est assez bon de lire, c'est que les outils, on les a. Les outils, les profs les ont. Il ne faut pas révolutionner l'école. Il faut utiliser des choses qu'on a dans son bon sens, qui ne sont pas toujours dans les programmes scolaires ou dans les manuels, mais utiliser le bon sens de tout un chacun pourrait nous permettre déjà de remotiver ses élèves et ses enfants pour en faire des adultes épanouis dans la vie.
Véronique Thiberguien, question clé, jusqu'à midi sur la première.
Sauver l'école, c'est la question que se pose John Rizzo à travers son ouvrage paru chez Cœur Édition. Et sauver l'école, oui, mais comment? C'est toute la question. Il existe évidemment plusieurs pédagogies utilisées dans nos écoles et la pédagogie Freinet tente de répondre aussi à cette question depuis la fin du siècle dernier. Il s'agit d'une pédagogie originale fondée sur l'expression libre des enfants, textes libres, dessins libres, correspondances interscolaires et bien d'autres activités. La pédagogie est souvent mise en place à l'école primaire, mais depuis le mois de septembre, une école secondaire a été créée autour de cette pédagogie. Reportage de François Nemeth.
Op 20 maart gaat de zon bedekt zijn. Hij gaat van 4/5 bedekt zijn door de maan. De maan gaat tussen de aarde en de zon schijnen.
Ce matin, Lou, un des élèves, a écrit un texte en néerlandais portant sur l'éclipse qui a eu lieu ce 20 mars, une manière de donner du concret à ces interrogations de jeunes. C'est la base de l'enseignement Freinet. Kathleen Wersdusky est prof de latin.
Donc en latin, ce qu'on peut faire par exemple, c'est d'éveiller justement des questions par rapport aux bâtiments qui subsistent. Tiens, comment se fait-il que finalement de vieilles choses sont toujours similaires aujourd'hui avec tous les progrès qu'on a faits? On essaye de se questionner de cette manière-là. Je dirais que la chose la plus particulière, c'est la manière de vivre et la manière d'apprendre de vivre, parce qu'on essaye vraiment d'être une école citoyenne et donc on essaye d'apprendre à nos élèves à vivre ensemble, à discuter ensemble, à trouver des solutions ensemble, à respecter les autres. Ça reste des adolescents, donc c'est sûr qu'il y a quand même un jeu de leur part qui est bien normal, de chercher les limites, de voir voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est leur apprentissage et c'est tout à fait normal.
Je mag nooit met het bloed oog in de zon kijken.
On peut tutoyer les professeurs, on n'est pas stressé aussi par les examens puisqu'on n'en a pas. Par terre, il y a des tapis, donc on peut marcher en chaussettes ou en pantoufles. On est beaucoup plus tranquille et c'est nous qui avons dû faire les règles de l'école. Du coup, ben, on les connaît bien et donc on les respecte beaucoup plus.
Qu'est-ce que tu as appris le plus depuis le début de l'année ?
Qu'on doit faire ce qu'on a envie, et on doit rechercher nous-mêmes et pas toujours faire ce que les autres font et apprendre à faire fonctionner notre cerveau.
Pas toujours facile d'encadrer ces jeunes en début d'adolescence, Katine Verduski, professeur.
On va être beaucoup dans la discussion avec eux. Donc une règle n'a pas de sens si elle n'est pas explicitée, si elle ne répond pas à des besoins. Et donc la première chose, c'est qu'effectivement, on va essayer d'envisager ensemble pourquoi d'une règle, pourquoi elle est là pour le bien-être de tous, en quoi elle est saine pour la vie en communauté qu'on mène au quotidien ici. Et puis on a voilà, une façon un peu particulière aussi d'aborder certaines règles, qui est celle du conseil de classe. Et donc, dans ce conseil de classe, les élèves sont invités éventuellement à soumettre à la classe une situation qui a pu poser problème. Ça peut être, je ne sais pas moi, un vol d'objet, ou ça peut être un voisin qui papote un peu trop. Et les élèves ensemble réfléchissent à ce problème, en quoi ça gêne le groupe, et ensemble essayent d'y apporter une solution. Ce qui est très chouette, c'est que voilà, on est des adultes et ce sont encore des enfants ou des adolescents, et que donc notre vision des choses, nos mots, nos limites à nous ne sont pas forcément toujours les mêmes que les leurs. Et donc, c'est très efficace de les voir réfléchir à un problème et de les voir trouver des solutions qui sont souvent bien meilleures que celles que les adultes auraient pu y apporter. Donc, c'est vraiment un bonheur de les voir agir comme ça en grands adultes, finalement.
Seule la première secondaire est actuellement organisée dans l'école, mais dès la rentrée prochaine, une deuxième année sera ouverte. Amandine Turling, la directrice.
Il y a plein d'écoles primaires où on ose faire vivre des choses différentes aux enfants. Et puis en secondaire, tout d'un coup, sous prétexte que peut-être on doit être sérieux ou je sais pas, alors on est obligé de faire quelque chose de traditionnel pour les préparer à entrer dans la société. Nous, on dit non. On est sérieux. Nos jeunes, ils vont mériter le CESS, ils vont pouvoir s'insérer dans la société de demain, mais pas pour rentrer dans un moule, mais pour la changer.
Cet enseignement est pour la direction de l'établissement plus qu'une école tournée vers l'avenir, mais le rêve d'une société meilleure.
C'était François Németz de l'autre côté de l'école à Oderghem, avec cette première expérience dans le secondaire de la méthode Freinet, dont on parle déjà depuis un certain nombre d'années. Alors, la méthode Freinet, John Rizzo, vous en parlez dans votre ouvrage, mais au fond, vous êtes un agnostique des pédagogies, parce que vous prenez plutôt des choses qui sont intéressantes dans toutes les pédagogies qui existent aujourd'hui, en disant elles ont leurs points forts, et autant utiliser ces points forts-là en particulier. Mais vous ne préconisez pas une méthode en particulier.
Tout à fait. Donc, je pense que c'est le rôle de l'enseignant acteur sur le terrain, en fonction des élèves qu'il a, de leur sensibilité, celle des parents, de choisir finalement un mix de pédagogie et il va tantôt faire l'une, tantôt l'autre. Votre reportage mentionnait quelque chose qui m'a touché. On parlait de manière de vivre ensemble. Et quand, par rapport à votre question sur les pédagogies, ça me rappelle une anecdote des additions écrites. Comme j'avais constater que les vitesses apprenaient comme les élèves apprenaient à des vitesses différentes, j'avais décidé de plus donner d'explications collectives. Parce que quand j'explique collectivement, je les oblige à écouter tous à la même vitesse. Alors j'avais préparé un dossier pour qu'ils apprennent les additions écrites en quatrième primaire. Et j'avais mis dans le dossier 5 liens vers des vidéos YouTube avec des enseignants professionnels qui expliquent bien mieux que moi.
Oui.
Et je me dis, ils vont regarder les vidéos, ils vont apprendre. Mais ça ne s'est pas passé comme ça en fait. Comme j'avais donné carte blanche aux élèves pour qu'ils puissent se lever en classe, changer de place, qu'ils puissent parler entre eux, qu'ils puissent même écrire au tableau s'ils avaient envie, ils ont décidé de faire autrement. Ils n'ont pas beaucoup regardé ces vidéos. Et à ma grande surprise, ils ont commencé à s'expliquer entre eux. Et donc, ils ont préféré de loin s'expliquer entre eux avec deux conséquences inattendues pour moi. La première, et on revient à la manière de vivre ensemble, c'était la cohésion sociale. Ces élèves ont commencé à parler avec d'autres élèves de la classe qui n'étaient pas dans leur clan de récréation. Et donc, il y a eu une espèce de collaboration et de cohésion sociale qui a fortement grandi, qui était assez extraordinaire à voir. Et la deuxième conséquence, c'était des compétences de communication orale. C'est-à-dire que comme ces élèves passaient leur temps à expliquer et à faire un raisonnement cartésien, ou essayer d'enchaîner les idées,
d'argumenter,
etc., j'ai remarqué que leurs compétences de communication orale avaient explosé. Quand on sait qu'enseigner, finalement, c'est apprendre deux fois, qu'est-ce qui a le plus besoin d'enseigner à l'école ? Le prof ou l'élève ?
Visiblement, les deux.
Je pense que celui qui en a besoin, c'est certainement l'élève. Celui qui en a envie, c'est peut-être souvent le prof. Comme moi, par exemple, en début de carrière, je parlais. J'ai dû saouler des générations d'étudiants en informatique professionnelle. Je tiens à leur présenter publiquement mes excuses à la radio. Qu'est-ce qui est important à l'école ? C'est que les élèves apprennent et deviennent autonomes. Tous les parents, tous les enseignants veulent que les enfants deviennent autonomes. On veut qu'ils apprennent à manger tout seuls, qu'ils roulent en vélo tout seuls et qu'ils deviennent des adultes autonomes. Et il y a une histoire charnière dans le livre qui montre bien cela. C'est l'histoire des nombres divisibles, parce que je ne vous ai pas expliqué ce qui s'est passé après, quand ils avaient raté leur contrôle. J'ai décidé que... je leur ai dit, vous avez carte blanche, vous pouvez faire tout ce que j'ai dit, donc vous pouvez parler, etc. Mais vous ne passez pas à autre chose tant que vous n'avez pas fait 80% à mon test sur le nombre divisible. Et si vous ratez, ce n'est pas grave. Vous retournez travailler, vous étudiez, vous discutez entre vous et vous revenez faire autant de fois que vous voulez. Mais 80%, c'est votre nouveau niveau d'exigence. Et ça change tout par rapport à la conception que l'élève a de la vie finalement. Ce n'est pas « Ok, je vais essayer de suivre le train du programme, peut-être je n'y arriverai pas, peut-être je vais rater, peut-être que je ne suis pas capable. » Non, Je sais que je peux faire d'office 80%. La seule question, c'est à quelle vitesse.
C'est ça. Au fond, la finalité, c'est le projet. Atteindre les 80%. Et vous dites, pour pouvoir atteindre ce projet, il faut se donner des contraintes ou ne pas s'en donner. Et la vitesse d'apprentissage ne doit pas être une contrainte.
Exactement. J'avais dans ma classe, par exemple... prenons un autre exemple en deuxième primaire. Un exemple du livre. J'ai Ahmed qui est occupé à faire... Il a fini le premier exercice et il s'arrête. Je le regarde et je lui fais « Bah quoi ?» Et il me répond « Bah j'attends. Tu attends quoi, Ahmed ?»« Bah j'attends que vous me donniez signal pour démarrer l'exercice suivant. » Alors que derrière lui, il y avait Yasmina qui n'arrivait même pas, ne fût-ce qu'à comprendre l'énoncé du premier exercice. Or, l'article 29 de la Déclaration des droits de l'enfant nous dit bien que nous devons viser à développer les dons, les attitudes de chaque enfant dans toute la mesure de leur potentialité. Mmh. Donc, quand je fais une explication collective trop longue et que j'oblige finalement tous les enfants à m'écouter à la même vitesse, finalement, j'ai l'impression que je risque d'apprendre à Ahmed à s'ennuyer à l'école et que Yasmina va courir trop vite derrière le train du programme avec tout le stress et qu'il va peut-être apprendre à détester l'école. Et donc, à un moment donné dans le livre, vous avez dit qu'il se déroule comme une enquête, ben, je vais essayer quelque chose, je me dis, j'arrête de donner des explications collectives.
Est-ce que vous allez demander, c'est à Ahmed, d'expliquer à sa voisine comment ça fonctionne?
Vous aurez dû voir sa tête quand je lui ai dit ça. Donc je lui ai dit, ben, fonce. Et quand il a terminé ses deux feuilles, sa voisine était toujours au deuxième exercice ou au premier, je ne sais plus. Et je lui ai dit, ben, Ahmed, va dans la classe et vois s'il y a quelqu'un qui aura envie que tu l'aides. Alors, il m'a regardé tout à fait incrédule. C'est pour du vrai ou... J'ai dit oui, vas-y, fonce. Alors évidemment, tous ces camarades qui avaient progressivement fini m'ont chacun demandé leur tour. Et moi, je peux aller aider, monsieur, je peux aller aider, monsieur. Et donc, il y avait dans cette classe, alors, pas une indiscipline, mais un joyeux brouhaha quand même silencieux, parce que l'architecture ne permet pas non plus de faire n'importe quoi. Et ces élèves, finalement, n'étaient plus en compétition pour finir le premier. Ils étaient en collaboration. Et quand un élève... Donc, dans une classe de 4e primaire, j'explique ça. Je fais un tableau de gommettes pour voir la progression de chacun. Mmh. Et ils avancent à des vitesses vraiment différentes. Hein. Il faut se dire que le plus rapide va 3 fois plus vite que le plus lent. Ça, chez les adultes et chez les enfants, c'est quelque chose d'universel que j'ai pu constater. À condition qu'on les laisse faire. Et on pose souvent la question, mais... C'est inégalitaire, je veux dire, ils voient les résultats de leurs voisins affichés au vu.
C'est compétitif, on n'aime pas ça.
Mais en fait, c'est pas comme ça. Comment, j'ai été surpris de ça moi-même. Les enfants, en fait, ils ont passé tellement de temps à s'entraider que quand le plus faible réussit enfin à décrocher une gommette, c'est la fête.
C'est une victoire pour tous.
C'est une victoire pour tous. Mmh. Et il retourne chez son mentor, si vous voulez. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Alors que le mentor n'est pas forcément... Allez, ils n'ont pas forcément joué ensemble dans la cour de récréation. Mmh. Il y a vraiment une victoire commune.
Et c'est une victoire commune que vous proposez aujourd'hui à l'école. Comme je l'ai dit, vous ne proposez pas des révolutions. Vous ne donnez pas non plus un avis impératif pour sauver l'école. Mais vous dites, on a les moyens aujourd'hui. Utilisons ces moyens et prenons l'occasion et le temps de le faire. Et vous-même, vous avez testé des choses qui n'ont pas forcément réussi. Vous êtes aussi cassé la figure sur des élèves qui étaient parfois d'un réfractaire absolu. Il y en a un que vous appelez Rex. J'imagine qu'il ne s'appelle pas comme ça dans la vie. Mais ça donne une bonne image.
Son vrai nom est pire, en fait.
Ça donne une bonne idée, en tout cas, du type d'élève que ça peut être. Mais c'est un livre plein de vie. Et ce que je trouvais assez extraordinaire et surtout très motivant, c'est que vous êtes vous-même extrêmement motivé. Et vous avez un amour de cette transmission du savoir absolument incroyable qui vous a suivi tout au long de votre vie et que vous transmettez aujourd'hui à ces élèves. Alors certes, avec des choses qui sont parfois étonnantes, mais vous recherchez des solutions tout le temps. Et vous prenez le temps de rechercher ces solutions. Donc, pourquoi pas les autres, au fond? Et c'est ça ce que vous dites, c'est pourquoi pas? Et vous dites qu'il ne suffirait de pas grand-chose. Hein.
Exactement, en fait...
Rapidement, John Rezo, parce qu'il nous reste 30 secondes.
L'école telle qu'elle organisait maintenant, avec des élèves par 25 assis et tais-toi, c'est l'école organisée au 19e siècle, où on avait besoin d'armées, de fonctionnaires obéissants et d'ouvriers corvéables. Maintenant, les patrons, ils veulent plus ça. Les patrons, ils disent, moi, je veux des candidats qui me disent, apprendre, je trouve ça chouette. Et donc, il faut organiser l'école autrement pour correspondre au 21e siècle, finalement. Mmh.
Et on espère y correspondre. John Rizzo, merci beaucoup. Je rappelle que votre ouvrage s'appelle « Sauver l'école, point d'interrogation ». C'est paru chez Kerr Éditions. Bonne route à vous et bonne continuation.
Merci à vous.
La première. Podcast.